BW. Économie et développement.
Aujourd'hui, nous parlons de souveraineté numérique, un sujet crucial pour l'avenir du continent. Car si l'Afrique veut peser dans la gouvernance mondiale, elle ne peut plus se contenter d'être une simple utilisatrice de technologies importées. Elle doit devenir productrice et gestionnaire de ses propres données, infrastructures et plateformes. Et puis, dans la seconde partie de cette émission, Cap sur le Sénégal, à la rencontre d'une nouvelle génération d'agronomes, d'enseignants et d'entrepreneurs qui mise sur l'agroécologie pour transformer l'agriculture et relancer l'économie rurale. Une aventure verte, innovante et résolument africaine. C'est Rodrigue Guezoudia au micro. Bonjour à toutes et à tous.
DW.
Alors que l'Afrique du Sud assure pour la première fois la présidence du G20, le principal forum de coopération économique internationale réunissant les grandes économies mondiales, une opportunité historique s'ouvre pour porter au plus haut niveau un enjeu stratégique pour l'avenir du continent. Dans un monde de plus en plus interconnecté, les nations africaines peinent encore à maîtriser leurs infrastructures numériques, leurs données et les règles du jeu technologique. La dépendance aux grandes plateformes étrangères, l'externalisation du stockage des données sensibles et l'absence de normes locales affaiblissent leur pouvoir de décision et leur résilience. Face à cela, le développement d'infrastructures publiques numériques, IPN, apparaît comme une réponse structurante. Pensées comme des communs numériques ouverts, adaptés aux réalités locales, les IPN incarnent une vision ambitieuse. Bâtir un socle numérique souverain, inclusif et durable pour accompagner l'essor économique, éducatif et institutionnel de l'Afrique. Avec nous aujourd'hui pour en parler, une voix incontournable de ces questions. Irène Kierou, spécialiste des paiements numériques à l'Alliance Better Than Cash, une organisation internationale hébergée par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement. Irène Kierou nous éclaire sur les enjeux, les modèles africains inspirants et les leviers pour construire une Afrique numérique souveraine. Madame Kierou, bonjour.
Bonjour, je suis ravie d'être avec vous.
En quoi la souveraineté numérique devient-elle un enjeu géostratégique majeur pour l'Afrique?
Parce qu'elle touche des infrastructures clés comme les paiements, les identités et les données, qui sont toutes essentielles pour accéder à la santé, à l'éducation ou à la protection sociale. Mais c'est aussi fondamentalement une question d'indépendance. Parce que ne pas maîtriser nos données ni nos technologies, c'est de laisser les acteurs étrangers influencer nos choix en matière de sécurité, d'économie et de gouvernance. Et cette dépendance a un coût, parce que les solutions importées sont souvent très chères, mal adaptées et freinent notre développement.
C'est donc pour cela que l'Alliance Better Than Cash, que vous représentez ici, plaide pour des feuilles de route numériques souveraines. Quels en sont les piliers essentiels?
Tout d'abord, il faut renforcer les compétences locales en formant massivement notre jeunesse au métier du numérique, c'est-à-dire dans le développement de la cybersécurité, l'intelligence artificielle et les gestions de données, tout en assurant des partenariats équitables avec transfert de savoir-faire. Cela permet d'éviter les fameuses boîtes noires, ces solutions opaques contrôlées depuis l'étranger. Ensuite, nous devons impérativement maîtriser nos données. Cela passe par le stockage et le traitement local via des investissements dans des clouds souverains et l'adoption de politiques claires sur la protection et la localisation des données. Troisièmement, il est essentiel d'adopter des technologies ouvertes. En misant sur les logiciels libres et les standards ouverts, on favorise l'interopérabilité. On limite la dépendance aux fournisseurs uniques et on stimule l'innovation locale. Le quatrième pilier, c'est de mettre en place une régulation stratégique. L'Afrique doit se doter des règles fermes à l'égard des plateformes étrangères. En matière de fiscalité, de protection des utilisateurs et d'accès équitable au marché. Il est aussi temps de parler d'une seule voix dans les négociations internationales. À ce titre, le guide IPN publié en juin 2024 constitue une précieuse pour construire une gouvernance commune. Enfin, il est fondamental d'ancrer les solutions dans les réalités locales. C'est-à-dire les stratégies numériques doivent répondre aux besoins concrets des populations dans l'éducation, dans la santé et dans l'inclusion financière ou même dans l'agriculture et s'appuyer sur les innovations africaines. Cela exige des démarches participatives qu'on a vues en Afrique du Sud avec l'implication des jeunes femmes et des travailleurs informels dès la phase de la conception.
Vous avez cité l'Afrique du Sud, mais aussi le Bénin et d'autres pays qui font figure d'exemple en matière de construction d'infrastructures numériques souveraines, inclusives et efficaces. Quel enseignement peut-on en tirer?
On va prendre par exemple du Kenya, avec des plateformes comme le e-citizen ou quelqu'un pour commander en fait la carte d'identité. On peut aussi commander en même temps l'acte de naissance ou même Huduma, où le pays a pensé l'interopérabilité dès le départ. Ce qui a facilité la collaboration entre le public et le privé et a fait éviter que les systèmes restent cloisonnés. Le Ghana, lui, a mis l'accent sur l'inclusion en s'assurant que le Ghana CAD permet à tous d'accéder aux services sociaux, y compris dans les zones rurales. Pour connecter, les gens, ils peuvent accéder aux services sociaux avec l'USSD sans avoir besoin d'avoir des smartphones. Ce que ces pays ont aussi en commun, c'est une approche du numérique comme un bien public. Ils conçoivent leur système pour être transparent et d'être aussi équitable et au service de la gouvernance. Surtout, ils avancent progressivement vers la souveraineté numérique en investissant dans les compétences locales et en réduisant leur dépendance aux fournisseurs étrangers. Bien entendu, l'Afrique a les ressources, on a des talents, on est capable. Enfin, ces pays-là, ils ont quelque chose en commun, ils sont restés flexibles. Ils apprennent, ils ajustent aux besoins et ils s'adaptent en fonction du terrain et la réalité de chaque pays. Donc oui, même avec des ressources limitées, on peut bâtir un numérique public africain à condition d'avoir une vision claire, de faire confiance à nos talents. Bien entendu, on doit faire confiance à nos talents et de garder l'intérêt public au centre de toute cette stratégie.
Enfin, quel rôle doivent jouer l'Union africaine et les États membres dans cette dynamique?
L'Union africaine, elle doit continuer d'harmoniser les politiques numériques et de promouvoir l'infrastructure publique numérique comme des biens publics essentiels à l'intégration régionale. Les protocoles comme le ZLECAF marquent un pas important dans cette direction où on parle de l'interopérabilité entre les marchands. Au niveau national, chaque État doit élaborer des feuilles de route souveraines alignées sur ses priorités tout en s'appuyant sur des initiatives régionales comme le Smart Africa. Une meilleure coordination continentale est nécessaire pour mutualiser les ressources et assurer l'interopérabilité du système. Ce sera en phase avec l'agenda de 2063. L'Afrique aujourd'hui, elle dispose d'un atout considérable. On regarde aujourd'hui sa jeunesse qui est connectée, avec 70% de la population âgée de moins de 30 ans. Le continent regorge des talents capables de transformer l'économie numérique. On a les atouts. Et le digital est déjà un levier de transformation. Par exemple, un producteur de beurre de cacao au Ghana, elle doit être capable de vendre à un client qui est basé au Kenya à condition que les systèmes soient interopérables. Et pour concrétiser ce potentiel, il faut créer les conditions d'un marché numérique fluide avec des plateformes partagées, des systèmes de paiement compatibles et une protection des données harmonisées. Une personne ne doit pas avoir peur d'acheter le beurre de karité d'un marchand au Ghana parce que finalement, ces données seront protégées. Et enfin, c'est d'investir dans les talents locaux. Et les infrastructures souveraines sont indispensables pour réduire la dépendance technologique et stimuler l'innovation africaine. On doit motiver nos populations d'innover.
Innover. Irène Kirou, merci pour vos éclairages.
Merci beaucoup de m'avoir invité dans cette émission et à très bientôt, j'espère.
DW.
Face aux défis du changement climatique, de l'insécurité alimentaire et de l'épuisement des sols, de jeunes Africains inventent des solutions locales et durables. Au Sénégal, dans la ville universitaire de Bambé, une start-up fait pousser de l'espoir, notamment grâce à une plante longtemps marginalisée, le cactus. Suivons le reportage de Robert Adé, notre correspondant à Dakar.
On fait la culture contre saison. Chaque année, c'est comme ça. Pendant la saison des pluies, on fait la production des cultures maraîchères.
Ibrahim Diango Diaby, étudiant malien à l'Institut supérieur de formation agricole et rurale ISFAR de Bambé, passe ses heures de pause dans les champs de la start-up agroécologique Cactus Innovation. Ici, il est ingénieur des travaux.
Pendant la saison sèche, par exemple, en ce moment-là, on fait la culture céréalière ou bien la production de gombo. Les engrais principaux que nous utilisons ici, c'est le cactus. C'est vraiment riche à NPK, on peut le dire.
Son employeur, Eladi Malik Sai, est le fondateur de la start-up Cactus Innovation. Il a été lauréat du deuxième prix Orange de l'entrepreneuriat social en Afrique et au Moyen-Orient pour ESAM, édition 2023. Eladi Malik Sai explique qu'au départ, il n'avait pas une idée claire de son modèle économique. Mais grâce à des accompagnements financiers et techniques, il est parvenu à structurer et à concrétiser son projet.
Parce qu'on était à une étape d'idée, donc avec des devis de prototypage. Et au-delà de l'accompagnement financier qui a été adopté, il y avait un cadre qui a été mis en place, un cadre stratégique qui a permis donc de nous renforcer en termes de compétences techniques et aussi en termes de marketing.
Cactus Innovation est née d'un constat, la dégradation des sols au Sénégal, notamment due à la salinité dans les régions de Fatick et Kaolack. Ce phénomène rend les terres moins productives. Eladi Malik Sai a donc fait le choix de revaloriser ces terres grâce au cactus, une plante résistante à la sécheresse et adaptée aux conditions climatiques extrêmes.
Là, le cactus devient donc une alternative écologique. Nous avons mis en place un système de production d'énergie qui passe par le biogaz. En fait, nous faisons des coupes journalières de cactus qu'on met dans le dispositif et cela permet de produire du biogaz qu'on peut directement utiliser pour la cuisine ou à l'aide d'un générateur le transformer en électricité. Et cela donne donc une alternative durable en termes de production d'énergie durable, mais aussi en termes de développement économique au niveau du Sénégal. On investit maintenant dans une petite parcelle et on essaie de faire des cultures hors saison. C'est-à-dire on voit dans la saison, on fait des prévisions dans la saison, la culture qui va manquer le plus au niveau du marché. On cultive sur une petite parcelle, on maîtrise donc le système de production et cela nous permet d'avoir une production, de le vendre donc au moment où les prix est élevé au niveau du marché. Et avec cette production, cela permet de rentabiliser le système de production.
À l'Institut supérieur de formation agricole et rurale où il enseigne, Eladi Malik Sai est aussi une figure inspirante pour ses étudiants, à l'image d'Ibrahim Diango Diaby.
Il m'a montré comment on peut non seulement l'utiliser comme des haies contre les animaux, on peut aussi l'utiliser comme engrais, on peut l'utiliser comme biogaz, on peut aussi utiliser les fruits du cactus pour les marmelades, on peut aussi l'utiliser pour non seulement de l'huile, du savon aussi. La plante là, elle est vraiment bénéfique, on peut dire. Elle est vraiment fructueuse pour nous-mêmes, moi-même en tant qu'agronome.
À l'instar de Cactus Innovation, de nombreuses start-up sénégalaises misent sur des pratiques agroécologiques pour répondre aux besoins des populations. C'est le cas de EcoFrom Africa, une start-up sociale engagée dans une transition écologique responsable. L'ingénieur agronome Clément Sambou est l'un des cofondateurs.
Nous sommes dans une vision d'autonomisation et nous privilégions la préparation de propres engrais. Nous sommes dans un dispositif agroécologique dont nous créons un substitut aux engrais, c'est-à-dire aux engrais chimiques, en produisant notre propre engrais et favorisons la rotation des cultures, favorisons la culture associée et intégrant les cultures en couloir.
Mais ces start-up font aussi face à de nombreux défis. Feux de brousse, divagation des animaux, invasion d'insectes, pénurie de main-d'œuvre et surtout manque de financement. Pour Adama Faye, responsable du POESAM, prix Orange de l'entrepreneuriat social en Afrique et au Proche-Orient, il est essentiel de valoriser ces initiatives par un appui soutenu.
C'est tous les ans, nous choisissons les trois meilleurs projets en Afrique qui sont accompagnés déjà financièrement, mais également techniquement outillés pour faire davantage monter leur start-up et leur entreprise. Ça ne s'arrête pas simplement à l'octroi du prix, donc il y a tout un suivi. Nous avons plusieurs dispositifs d'accompagnement des startups. Cactus Innovation vous a donné l'exemple. Donc, une fois qu'il a obtenu le prix POESAM, il a quand même été suivi, accompagné pour continuer à travailler sur sa startup.
La majorité de ces startups agroécologiques sont membres de la Dynamique pour une transition agroécologique locale d'ITAEL. Ce réseau fédère producteurs, consommateurs, ONG, institutions de recherche, élus locaux et entreprises autour d'un même objectif, construire une agriculture durable, résiliente et inclusive. Robert Allé à Dakar pour la Deutsche Welle.
Merci Robert pour ce reportage en lien avec l'autonomisation des jeunes start-up agroécologiques au Sénégal. Merci également à Irène Thierrou de l'Alliance Better Than Cash. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans Économie et Développement. L'émission est disponible en podcast sur notre plateforme habituelle www.dw.com/français. Restez connectés et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine.